ainsi et l'aimer pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, une émission inhabituelle, puisqu'il ne s'agira pas du portrait d'un invité, mais celui d'un produit, le cannabidiol, communément appelé le CBD. Et pour nous en parler, je reçois monsieur le professeur Nicolas Franquito, chef de service d'addictologie de l'hôpital Larrey à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Également, Tom et Pierre Loup, qui ont ouvert un commerce vendant du CBD à Saint-Cyprien. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue à tous les trois. Pourquoi j'ai souhaité faire cette émission, sachant que nos auditeurs se posent beaucoup de questions concernant le cannabidiol. Alors j'espère que qu'avec cette émission, ils trouveront aujourd'hui un éclairage nécessaire. Tout de suite, je me tourne vers vous, professeur. Expliquez-nous ce qu'est le cannabidiol.
Alors, le cannabidiol, c'est un endocannabinoïde. C'est une substance qui est contenue dans le cannabis, mais c'est un peu compliqué si on fixe sur le cannabidiol. Donc, je vais dire CBD, mais dans le cannabis, dans la plante cannabis, il y a plusieurs substances, dont celle que tout le monde connaît, c'est le THC, hein, la substance dite psychoactive, et il y a une partie qui est le CBD, donc le cannabidiol, qui agit plutôt comme un verrou, en fait, du THC. Et la qualité ou la puissance de la plante cannabis, elle est fonction du rapport qu'il y a entre le THC et le CBD. Donc, autrement dit, moins il y a de CBD, plus la plante est psychoactive. Plus il y a de CBD, moins la plante est psychoactive.
Quel est l'intérêt? Alors là, je vais me tourner vers les garçons. Alors, je vais dire les garçons pour Tom et Pierre Loup, parce que vous êtes deux jeunes hommes. Donc, je vais me permettre de vous appeler les garçons.
Problème.
Quel est, selon vous, l'intérêt du CBD?
Beaucoup, beaucoup d'intérêt. Les vertus sont nombreuses. Donc, il va y avoir la vertu relaxante, anxiolytique, la vertu qui va soulager certaines douleurs. Aussi, des gens qui vont essayer de réduire leur consommation de cannabis récréatif par le CBD, parce que c'est une transition pour eux qui est importante, pour certains en tout cas. Après, l'intérêt du CBD, c'est aussi le bien-être, c'est aussi arrêter certains médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires et donc aller vers quelque chose de plus naturel, si je puis dire.
Donc un produit naturel.
Oui, voilà, tout à fait. Oui.
Quelles sont les raisons pour lesquelles les clients vont venir acheter du CBD?
Pareil, là, c'est une multitude de raisons. Pourquoi ils vont venir spécialement acheter du CBD? Ça peut être pour le sommeil, ça peut être pour l'anxiété, ça peut être pour justement arrêter certaines addictions, parce que peut-être qu'on va en venir avec le spécialiste. Sur les addictions, il y a beaucoup, le CBD joue beaucoup sur réduire certaines addictions. Après, je laisserai la parole à Franquito pour nous dire un peu plus sur ça, parce qu'on ne va pas se souscrire au savoir d'un médecin.
Non, c'est pas ça. C'est très intéressant ce qu'il dit. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'ère, voire l'heure du phyto. C'est-à-dire, nos consommateurs de cannabis disent... Ne vous inquiétez pas, du cannabis, hein, ne vous inquiétez pas, c'est phyto, parce que c'est une plante. Or, cette plante, elle a des effets addictifs, certes beaucoup moins importants que l'alcool ou le tabac, mais en tout cas, il y a des effets addictifs.
Sur le THC.
Sur le cannabis. C'est-à-dire que le consommateur qui consomme du cannabis, il consomme du THC et du CBD. Mais il ne sait pas quelle est la quantité de THC et de CBD quand il achète du cannabis. Il ne le sait pas. Il sait ce qu'on lui dit, il sait si le cannabis est plutôt puissant ou pas puissant, mais en tout cas, il est incapable de dire, quand il achète du cannabis ou qu'il en cultive, il est à la visée récréative, il est incapable de dire le rapport de CBD et de THC. Donc ça, c'est la première chose. Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, c'est très intéressant son discours. puisqu'on l'entend de la part des consommateurs, c'est-à-dire, et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est de dire les gens viennent acheter du CBD, donc autrement dit, pas le THC, mais le CBD, parce qu'ils ont des troubles du sommeil, parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont de l'anxiété, parce qu'ils ont, l'autre jour j'ai regardé, là j'ai reçu une publicité, pour stimuler l'ego, donc ça veut dire peut-être qu'on est un peu timide, un peu introverti, et donc on accorde énormément de vertus au CBD, et ce qui nous freine un peu, nous les professionnels de santé, c'est que ça soit vendu à des potentiels patients qui ont peut-être une problématique médicale en dessous qui nécessiterait une consultation. Parce que l'anxiété, ça peut s'inscrire dans un trouble anxieux, ça peut s'inscrire dans une pathologie psychiatrique, et il faut quand même informer sur le fait que ce n'est pas le médicament miracle aujourd'hui, puisque c'est quand même vendu comme un médicament, même si ce n'est pas dit dans le vocabulaire, c'est vendu comme un médicament.
Première question, si c'est vendu comme un médicament, moi j'ai découvert complètement par hasard votre commerce, c'est ce qui a amené ma curiosité, puisque je ne connaissais pas du tout le CBD et j'ai voulu en savoir plus. Est-ce que pour vendre du CBD, vous avez besoin d'une formation ou d'un diplôme en particulier ?
Alors, d'une formation, d'un diplôme en particulier, non. Techniquement, on fait de la revente de produits qui sont déjà... Ils ont des autorisations, on a des fiches produits sur chacun de nos produits, donc on ne les teste pas nous-mêmes. Après, c'est des entreprises, par exemple, Cibdol, qui est une entreprise suisse, qui sont connues du coup sur le marché pour faire autant des huiles que des crèmes, qui, eux, ont tout un process pharmaceutique derrière, au niveau de l'élaboration des produits, pour avoir un contrôle et un suivi.
Mais ce sont des médicaments... Enfin... Vous avez dit, professeur, que c'était des médicaments. C'est le terme que vous avez employé.
C'est pas un médicament au sens pharmaceutique du terme. Mais je parle sur les patients que je connais, en tout cas, ils le consomment comme un médicament, mais comme le cannabis. C'est-à-dire, quand le cannabis, ou comme l'alcool, ou comme d'autres substances, que ce soit la cocaïne, l'héroïne, à partir du moment où la substance est consommée comme un médicament pour améliorer le sommeil, améliorer l'anxiété, calmer un stress, machin, ça veut dire qu'il faut une consultation médicale. C'est ça qui nous gêne. En
fait. Ça vous pose problème ?
Non, mais ça ne nous pose pas problème. C'est-à-dire la communauté addictologique, ça ne nous pose pas problème que les patients consomment du CBD. Et surtout qu'il y a des progrès sur la qualité. C'est qu'au début, il y avait, parce que les patients, ils viennent... chez moi, ils disent « je consomme du cannabis », donc vous l'avez très bien dit, hein. « Je consomme du cannabis, je suis dans un engrenage l'enfer, j'ai acheté du CBD pour diminuer ma consommation de cannabis. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que je ne consomme plus de cannabis, mais je consomme du CBD. » Et quand on leur dit « mais quel est l'effet du CBD ?», ils disent « ah ben c'est pareil que le cannabis ». Alors, ce qui est étonnant. Et donc on leur disait ben, « faites pipi, on va faire une analyse d'urine ». Et là, bim, THC positif sur la bandelette dans les urines. Donc on savait que c'était du produit qui contenait du THC et qui était enrichi en CBD. Aujourd'hui, la qualité est meilleure sur les produits. On sait que c'est des produits qui contiennent moins de 0,2% de THC, voire pour certains, zéro. Donc les gens l'utilisent. Mais le seul frein pour moi, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une meilleure discussion entre la vente de CBD, l'accès grand public et les médecins, parce qu'il y a des patients qui ont des pathologies qui nécessiteraient, avant de commencer le CBD, d'avoir une évaluation médicale. Après,
j'entends.
Après aujourd'hui, quand on dit le CBD, c'est pas un psychotrope, c'est faux. Parce que si ce n'était pas un psychotrope, ça n'agirait pas sur... ça ne calmerait pas les angoisses. Par contre, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de dépendance au CBD chez les patients, mais on n'a pas un recul énorme, mais on sait qu'il n'y a pas de dépendance, et il n'y a pas d'intoxication, on n'a pas eu d'accident grave avec le CBD, comme on peut voir avec le THC.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les magasins de cigarettes électroniques ?
Bah oui, oui, totalement. Enfin, le même parallèle avec la cigarette électronique, puisque la cigarette électronique, nous, quand on a des patients qui disent je suis passé à la cigarette électronique et que on regarde les conseils qu'ils ont reçus en disant ben je fumais 25 cigarettes à forte, donc 25 cigarettes fortes à tant de milligrammes, on m'a donné cette fiole et donc on voit vapoter des quantités avec, alors vous avez vu, il y a tout, hein, les pods, pas les pods, les recharges. Non, vous avez ceux qui fument, on dirait des dinosaures là, avec une énorme fumée. Il y en a qui recherchent, il y en a qui recherchent plutôt la chaleur, hein, le heat, comme on dit quand oui. ça passe. Il y en a qui le veulent pas, il y en a qui préfèrent la fumée froide. Donc ça s'adapte. Et effectivement, alors beaucoup moins toxique la cigarette électronique, beaucoup moins toxique que la cigarette fumée, comme le cannabis vaporisé, beaucoup moins toxique que le cannabis fumé, mais il y a encore des discussions à avoir. Et moi, je ne suis pas... je dis moi, mais les addictologues, on n'est pas des gens contre le CBD. Il y a quand même une évolution qui va se faire. Mais c'est vrai que, je le redis, hein, il y a quand même des gens qui ont des pathologies qui vont vers le CBD. D'ailleurs, vous tapez sur Twitter CBD, là, aujourd'hui, la discussion, c'est la contraception. Comme avec le jus de pamplemousse... On dit, ah ben mon médecin m'a dit de ne pas consommer du CBD parce que je prends tel médicament. Attention, comme avec le jus de pamplemousse, ça peut modifier.
Oui, il peut y avoir des interactions.
Mais ça, il faut qu'on le dise. Et ça, ils ne font pas l'interrogatoire de leurs patients pour savoir.
De leurs clients, sur le coup.
Pardon, ouais, ben vous voyez ce truc.
Et oui, donc, bien sûr.
De leurs clients, ils ne font pas l'interrogatoire de leurs clients pour dire est-ce que vous avez des contre-indications à consommer du CBD.
Alors je me retourne vers vous. Ah, mais vous vouliez peut-être. Compléter ce que...
Pour aller un petit peu dans le même sens, que moi je dirais que la plante de cannabis est une plante qui est très complexe et très riche, et les fameux cannabinoïdes dont font partie le THC et le CBD, qui sont les deux plus connus, il faut savoir qu'il y en a plus d'une centaine dans la plante. Et le moment où justement on arrive sur le côté médical, thérapeutique, tout ça, c'est assez compliqué, parce que vu que la plante est très riche et très complexe, elle va pas agir de la même manière en fonction des personnes. Et ce fameux ratio THC-CBD, c'est ça qui va justement être utile dans certaines pathologies, et dans d'autres, beaucoup moins. Donc, je pense que le côté médical manque encore de recul avec peut-être des études, même si depuis quelques années, on commence à en avoir de plus en plus, avec par exemple quelques médicaments comme le Sativex ou le Marinol, qui ont été mis en place sur le marché dans les années 90-2000, il me semble, qui sont eux justement un mélange de THC et de CBD.
Oui, justement, j'allais en parler du Marinol tout à l'heure.
Ça donne justement dans certaines conditions, certaines pathologies. Il faut prendre le pour, le contre. Et c'est vrai que nous, quand quelqu'un vient à la boutique, on va chercher à le conseiller, lui donner... On n'appelle pas ça un médicament, on va appeler ça un complément alimentaire. Non. C'est vraiment quelque chose qui va... C'est pas miraculeux, mais ça peut améliorer, ça peut aider.
C'est exactement sur le principe dont vous disiez, c'est de la phytothérapie. Soulagé par les plantes. Et c'est ce que vient rechercher nos clients. Encore une fois, il faut bien préciser client et pas patient. On va pas changer les rôles derrière, mais par contre on va avoir un discours qui respecte le jugement des médecins et qui va aussi aller dans le sens du client qui veut aussi arrêter un peu ce principe de médicamenteuse, si vous voulez dire, si je puis dire, c'est ce côté-là un peu de molécules de synthèse. Qui veulent un peu arrêter.
J'écoute depuis le début de l'émission, je me dis pourquoi ne pas mettre en place une réunion qui pourrait être, je ne sais pas, trimestrielle à Toulouse entre les commerces de CBD et les addictologues pour pouvoir justement échanger et voir ce qu'il convient de dire, de faire. Je trouve que ça serait peut-être intéressant de vous réunir régulièrement pour pouvoir en parler, parce qu'effectivement, il est peut-être nécessaire d'avoir un accompagnement complémentaire par rapport à une simple vente d'un produit quand même qui peut avoir certaines conséquences.
Tout à fait, avoir des addictologues référents de certaines boutiques. Et inversement, avoir des boutiques référentes par rapport à certains addictologues, ça serait intéressant. Après, est-ce que c'est dans le processus Est-ce que c'est le bon système à mettre en place? Je sais pas. Encore une fois, on est encore sur quelque chose qui est tout nouveau.
C'est nouveau, mais alors ça fleurit à la vitesse de la lumière, parce que moi je me suis promenée en ville et ça doit être la très grande mode, parce que des boutiques de CBD, je n'en avais jamais vu avant de tomber sur la vôtre, mais depuis que maintenant je fais attention et j'en vois partout. Dans tous les quartiers, on a une boutique de CBD maintenant à Toulouse.
C'est vrai, il y en a beaucoup, il y a une effervescence qui est énorme. Après, je parlais de nouveau dans le principe où on étudie des choses sur du très long terme, sur du 2 ans, 3 ans. La NSM, je crois qu'ils font leurs études sur 10 ans parfois. C'est assez énorme. Nous, ça fait depuis 2018 que c'est arrivé en France. Effectivement, les pays européens sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Il y a des études qui ont été faites dans des pays étrangers. Mais la NSM, je ne sais pas si elle se référence beaucoup à ces études qui ont été faites à l'étranger, parce qu'ils ont leur propre protocole. Donc,
vous avez ouvert quand votre boutique à Saint-Cyprien ?
La boutique physique, on l'a ouverte au mois d'avril.
Le 20 avril.
Ah oui, donc c'est extrêmement récent.
C'est extrêmement récent
en physique. On avait en physique, ouais.
Très rapidement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions à suivre, pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir cette boutique ?
Multiples raisons. Je vais laisser commencer mon associé.
C'était vraiment la passion du chanvre et bien-être et toutes ces différentes applications. Donc, moi, j'avais eu l'occasion d'étudier le chanvre déjà au préalable pendant mes études, sous le point de vue économique, écologique et agriculture. Et découvrir en plus de ça, au moment où j'avais fait toutes ces recherches, tous ces côtés thérapeutiques ou médicaux, justement, pour pas trop employer le terme non plus, qui étaient pris à reculons, certains pays qui l'exploitaient plus que d'autres. La France, on commençait à arriver sur le terrain. Ça nous a vraiment paru très important de réussir à communiquer un bon message, justement, par rapport au CBD. Le différencier totalement du THC et dédiaboliser un petit peu cette plante qui, depuis longtemps, est méconnue, en fait, justement. La plupart des gens ont tendance à voir ce côté psychoactif, récréatif, social, avec le cannabis dit THC. Alors qu'avec le cannabis CBD, où c'est exactement la même plante, elle va juste pas pousser de la même manière. On y trouve plein d'autres applications. Et justement, pour revenir sur M. Franquito, ce qu'il avait dit, le THC et le CBD sont analogues, donc les deux vont se contrer, en fait, tout simplement.
J'ai vu dans la boutique que vous vendiez du CBD, alors ça m'a un petit peu interpellé, pour chien et pour chat. Mmh, vous m'expliquez ?
Mais nous possédons, comme eux, un système endocannabinoïde, excusez-moi, le nom est un peu encore barbare.
Endocannabinoïde,
pardon. Et donc, ça a des vertus. Il faut savoir que l'animal, il est dépourvu de parole, comme beaucoup de gens le savent. Et il ne dira pas qu'il a mal, ou qu'il est stressé, ou qu'il est anxieux. Et donc, effectivement, ils ont un système qui leur permet de réceptionner la molécule, tout comme nous. Et donc, ils vont parfois soulager, parfois relaxer l'animal de compagnie.
Mais c'est sous forme de gouttes, hein ?
Ça peut être sous forme de gouttes, ça peut être sous forme comme de petites croquettes, qui va être avec une concentration de CBD dedans. Et donc après, il y aura aussi pas mal de petits compléments alimentaires qu'on a l'habitude de trouver dans des produits chez vétérinaires, comme de l'huile de foie de morue pour le poil, et quelques vitamines pour compléter son alimentation qui est souvent très très pauvre.
D'accord, ok. Donc pour son bien-être.
Pour son bien-être, tout à fait. On pense avant tout au bien-être plus que récréatif, de toute façon.
Et pour l'humain, sous quelle forme vous vendez-vous le CBD ?
Plein de formes différentes. On le vend en infusion, on le vend en baume, on le vend en huile.
En baume, c'est-à-dire on se met sur le corps, voilà.
Tout à fait, qu'on vient cibler certaines douleurs en mode cutané.
Ah, c'est mieux que la kiné, alors ?
Non, encore une fois, ce sont des années d'études. Ce n'est pas un produit qui va enlever des années d'études, loin de là. Mais c'est comme, vous pouvez le comparer au baume du tigre, par exemple.
D'accord.
Qu'on utilise qu'on voit dans tous les commerces, de toute façon. Et ensuite, on le vend aussi en fleurs, en résine. Nous le vendons en galinée. Donc, c'est le même principe que l'huile, en galénique, pardon. Le même principe que l'huile, mais sous forme de gélules. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous, docteur, il vous arrive d'en prescrire du CBD ?
Alors, on ne peut pas prescrire de CBD comme on ne peut pas prescrire de la cigarette électronique, puisque ce n'est pas un médicament. Donc, on ne peut pas le prescrire. Donc, non, on ne le prescrit pas. Chez les patients
Vous pouvez le conseiller.
Alors, chez les patients qui viennent, qui en consomment, effectivement, avec le suivi médical, ceux qui disent « moi, ça me va bien et j'ai un suivi à côté », parce que vous avez parlé du baume du tigre. Il a raison, hein, il y a eu, quand on était plus jeune, il y avait les cataplasmes, hein, l'eucalyptus qui soignait tous les maux, la bronchite, les allergies, tout ça. Là, le CBD, aujourd'hui... Là, c'est vendu, vous avez vu, hein, les gélules, l'huile, ça se vend même en e-liquide de cigarettes électroniques.
Ah oui ?
Pour mettre, pour remplacer.
Oui, parce que
c'est une forme, on ne sait pas trop bien comment ça marche encore, mais ça fait partie de la vaporisation. Donc, pourquoi pas ? Il y en a qui l'achètent sur Internet. Hein, donc, on a plein de patients qui l'ont. Mais pour faire un peu de provoque, et uniquement pour faire un peu de provoque, c'est comme le bicarbonate de soude. C'est-à-dire. Ça blanchit le lavabo, ça enlève le calcaire, ça aide à la digestion, ça blanchit les dents, ça aide au sommeil, ça tue les moustiques, ça enlève les mites dans le placard. C'est-à-dire,
c'est clair, aujourd'hui, ça a le mérite d'être très clair.
Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, oui, il y a du retard en France, probablement. Là, il y a une étude de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM, là, sur le cannabis thérapeutique. Mais là, il y a une partie de THC dedans. Vous avez parlé des médicaments comme le Marinol qui contiennent du THC. Et il y a des médicaments comme celui qu'on utilise dans l'épilepsie grave du nourrisson qui ne contient que du CBD, donc sans THC. Donc il y a des médicaments qui existent, mais qui sont délivrés sur ordonnance avec des protocoles bien précis. Donc il ne faut pas tout confondre, parce que le cannabis médical, ce n'est pas le cannabis récréatif. Le CBD, ce n'est pas du récréatif. Mais c'est pas de la médecine aussi.
Je comprends.
C'est en tout cas, c'est de l'appoint. C'est-à-dire, moi, j'ai des patients qui me disent, je suis addict à l'alcool. En revanche, la sophrologie, ça marche pas. La psychothérapie, pas très bien. Mais le coach sportif ou l'immersion dans la nature, ça fonctionne. Pourquoi pas? Donc, c'est de l'appoint. Là, ça peut être de l'appoint. Encore une fois, la qualité, elle a beaucoup progressé. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont de meilleure qualité. Sans THC. Donc pourquoi pas, moi honnêtement, les patients qui le consomment, je ne leur dis pas arrêtez-le brutalement, oh là là. Bien entendu que non, mais avec un accompagnement médical. Mais c'est vrai que nous, on ne peut pas le prescrire aujourd'hui.
D'accord. Qui peut me répondre, comment est fabriqué le CBD ?
Le CBD est fabriqué naturellement, du coup, dans la plante de cannabis. Donc la plante de cannabis, quand elle va pousser, il y a un moment, elle va partir en floraison. Et c'est à ce moment-là où elle va commencer à produire des sommités fleuries. Sur ces sommités fleuries, il y aura des cannabinoïdes, donc le THC, le CBD, le CBN, le CBG, qu'on commence à entendre parler. Comme je vous ai dit, il y en a plus d'une centaine. Et c'est en fonction des variétés, donc des croisements génétiques. À aucun moment, c'est un OGM. C'est-à-dire qu'on va faire des croisements pour tirer plus ou moins partie d'une plante, donc par exemple de CBD. Et à terme, on va faire soit des fleurs qu'on va pouvoir vendre telles quelles, après qu'elles soient passées en labo, pour certifier qu'elles aient bien un taux de THC qui soit inférieur à 0,2%. Ou sinon, tout simplement, sous forme d'extraction. Donc, c'est avec des extractions à froid, on peut faire des tentures sous forme, avec de l'alcool, et après, on va faire une évaporation. Il y a plein de types d'extractions différentes pour extraire juste la molécule de CBD.
C'est cultivé en France ?
C'est un sujet qui est assez flou encore, parce qu'il faut savoir qu'on est des très bons chanvriers en France. Donc, on produit le chanvre depuis des siècles. Le CBD étant assez nouveau, il y en a. Ça existe. Il y a des producteurs en France, mais je vais laisser mon associé qui a.
Techniquement, une plante de chanvre contient du CBD. Donc, on peut faire pousser du chanvre, qu'on fera pousser d'une manière différente que de la manière agricole, où on va surtout chercher à favoriser de la tige et des fibres et des graines qui seront utilisées pour d'autres applications. Quand on va en vouloir sortir le CBD, on va le faire pousser pour surtout avoir des sommités fleuries qui seront, elles, riches en cannabinoïdes. Mais rien n'empêche de faire pousser un pied de chanvre. Donc en France, on a par exemple une liste de variétés chanvrières qui sont autorisées.
C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a des autorisations spécifiques pour ce genre
Exactement,
de plantes?
On peut faire pousser du chanvre en France, donc il faut faire des demandes, il faut vraiment officialiser, on dit qu'on prend ce type de variété. Et après, on est soumis à des contrôles, bien sûr, pour être... conforme à
avec des génétiques très spécifiques, et il faut se déclarer bien entendu aux autorités communes.
Mais des variétés de cannabis existent naturellement avec des taux de THC quasiment nuls et un taux de CBD qui peut être intéressant.
Vous pouvez nous expliquer, docteur, l'action du CBD sur l'organisme ?
Ben, on ne sait pas trop, en fait. Hein. Ça, on sait que ça se fixe sur les récepteurs donc, du cerveau qu'on a naturellement, les récepteurs aux endocannabinoïdes, puisqu'on en fabrique naturellement, à l'inverse de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de toxicité, puisque le corps ne fabrique pas d'alcool et n'a pas de récepteurs à l'alcool. Mais pour le cannabis, comme pour la nicotine de la cigarette, on a des récepteurs. Donc, ça se fixe sur son récepteur, ça a une action. On ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne, donc c'est à l'étude. C'est pour ça que je vous disais, on lui trouve des antidouloureux, antispasmodiques, apaisants, anxiolytiques. Donc c'est encore à l'étude, mais ça se fixe sur des récepteurs spécifiques, puisque le corps humain fabrique les récepteurs qui permettent d'accueillir les cannabinoïdes, donc comme le THC et comme le CBD.
Je reviens juste à ce que vous avez dit en début de phrase. Par rapport à l'alcool, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. On n'a pas de
récepteur. Non.
De récepteur sur l'alcool.
C'est ce qu'il a dit, oui.
On n'a pas de récepteur à l'alcool. L'alcool, c'est un produit totalement toxique qui crée beaucoup de dégâts.
Oui, certes.
C'est pour ça que la dépendance, si vous voulez... Tout à l'heure, on m'a posé la question de la cigarette électronique. C'est encore une fausse idée qui circule chez les patients fumeurs, mais qui viennent nous voir. Ce qui est toxique, ce n'est pas la nicotine, puisqu'on a des récepteurs à la nicotine. Donc, plus on consomme de nicotine, plus on fabrique de récepteurs. Le jour où on veut arrêter, le cerveau crée le manque, puisqu'il a prévu une grosse remorque pour accueillir plein de nicotine, et du jour au lendemain, vous dites, on n'en donne plus. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ben, vous êtes nerveux, vous avez mal au ventre, vous êtes en sueur. Pour le cannabis aussi, même si la dépendance est beaucoup moins forte, mais parce qu'on fabrique les récepteurs. Par contre, l'alcool, c'est un produit totalement toxique. Il n'y a pas de récepteur à l'alcool dans le cerveau. Donc, il va en fabriquer, il va y avoir des modifications, des neurotransmetteurs, machin, le cerveau va s'adapter. Mais,
Qu'on peut être extrêmement addict à l'alcool.
Complètement.
Oui, on est addict à l'alcool, mais bien sûr qu'on est addict à l'alcool. Heureusement qu'on est addict à l'alcool, c'est un moyen de défense, mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, là encore, les gens qui consomment beaucoup d'alcool, ils deviennent addicts à l'alcool, et quand ils veulent s'arrêter, ils ne peuvent plus. Avec la nicotine, on a un moyen de substitution. Avec l'alcool, on n'en a pas.
D'accord.
Pas de moyen de substitution. Avec les opiacés comme l'héroïne, il y a des médicaments de substitution. Avec le cannabis, le THC, le moyen de substitution, ce serait de donner du THC, et c'est ce qu'on fait dans certaines pathologies chroniques, et ça fait partie des essais.
Le cannabis médical, il se prend sous quelle forme ?
Il se prend sous forme de... comme il a dit là, c'est-à-dire forme de goutte.
D'accord.
Forme de goutte, forme de capsule. Et peut-être peut-être vaporisé.
Oui.
Mais on prescrit pas un joint de cannabis.
Non.
Non, mais parce que des fois il y a des jeunes qui nous disent oui je fume du cannabis machin, je voudrais passer à la vaporisation. Et alors des fois on nous interroge. Nous on préfère la vaporisation parce que
vous avez dit, oui.
Là il y a des gens qui nous ont dit parce qu'on sélectionne des patients qui ont le droit de rentrer dans l'expérimentation du cannabis médical. Donc rien à voir avec le CBD. On leur dit, on ne va pas vous prescrire un joint. Et on dit, vous n'allez pas venir fumer un joint, parce que vous apportez du THC pour soigner la pathologie, ok, mais d'un autre côté, avec le monoxyde de carbone, la combustion, on va créer d'autres maladies. Donc ce n'est pas le rôle du médecin. C'est pour ça qu'on encourage la vaporisation. D'ailleurs, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et vous l'avez vu, quand on avait des gens autour qui disaient... La cigarette électronique, c'est très nocif, peut-être. Mais en tout cas, le tabac, c'est très nocif. Le tabac fumé, c'est très nocif. La vaporisation, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est moins nocif. Et pour la vaporisation du cannabis, par rapport au joint.
Qui est de la combustion, en fait. C'est la combustion,
ouais, c'est la combustion.
C'est qui vient vraiment dégrader, quoi. Donc oui, là, c'est l'inhalation de la molécule sans combustion qui vient être réceptionnée par un autre système.
On va tout simplement différencier l'usage thérapeutique, du coup, on va dire, avec du cannabis médical, avec un peu de THC, un peu de CBD, qui est vraiment utilisé dans certaines pathologies avec vraiment un accompagnement, d'un usage du coup social ou récréatif que du coup les jeunes vont chercher avec du THC. Et nous, on va beaucoup plus se positionner dans un usage bien-être. Voilà, ça va être dans de l'accompagnement, c'est plus quelque chose qui va essayer d'aider, d'améliorer.
Oui, on n'ira jamais inciter quelqu'un à fumer un joint comme le docteur Franquito a pu le dire. Et c'est vrai qu'il parlait de jeunesse et c'est là où c'est intéressant, c'est que le système dans lequel on est actuellement par rapport à tous ces produits va prohiber plus que éduquer avec pédagogie les manières de consommer le produit et les moyens de se défaire de certains produits qui sont souvent légaux en France, comme la cigarette ou l'alcool.
Vous parlez de jeunesse. Justement, quand j'ai annoncé l'émission, j'ai un auditeur qui m'a écrit pour que je pose une question au docteur Franquito et qui me dit « Quid du CBD pour les douleurs des seniors ?»
La même réponse, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas le CBD marche dans la douleur. En tout cas, dans l'expérimentation actuellement sur le cannabis thérapeutique, c'est un des motifs de consultation, certains styles de douleur. Et après, nous, on sait qu'on a des patients qui consomment du CBD à visée antalgique, mais on n'a pas. On sait qu'il y a des interactions entre les opiacés, donc les récepteurs opiacés, et les récepteurs endocannabinoïdes. Donc, on le sait qu'il y a des liens. Mais comme l'alcool, c'est un très bon, entre guillemets, antalgique. Mais il y a beaucoup de gens qui le consomment contre les douleurs. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Le CBD, on ne le sait pas. Mais il y a des travaux en cours sur ça.
Je voudrais vous lire un autre message reçu d'une auditrice cette fois, qui me dit « J'ai vu que le CBD serait le thème de la prochaine émission. » Je souhaite dire qu'à titre perso, j'en prends depuis plus d'un mois pour des douleurs chroniques. Depuis, j'ai arrêté les médicaments classiques. Je ressens un mieux. Je dors aussi beaucoup mieux. Je suis moins stressée. J'ai découvert le produit dans un magasin de Toulouse CBD. Je pense tester d'autres produits. Ma question, quand je lis ça, est-ce qu'il y a un effet placebo ?
Est-ce qu'il y a un effet placebo ?
C'est-à-dire, est-ce que... un effet psychologique.
Alors, dans toute prescription, partout, il y a un effet placebo. Tout le temps. Même quand on le dit aux gens. C'est-à-dire, on peut même prescrire un placebo aux patients et leur dire que c'est un placebo. Ils le savent. Il y a des patients qui disent « je prends trop de médicaments ». Donc, on sait qu'on peut leur diminuer le nombre de médicaments. Mais des fois, ils sont... attachés au nombre de comprimés qu'ils prennent. Donc on leur dit, c'est un médicament qui est un placebo, et on leur donne comme ça, et ça les améliore. Donc oui, c'est possible, il y a probablement un effet placebo. Après, il faut voir quel type de douleur, est-ce que c'est des douleurs de type inflammatoire, est-ce que c'est des douleurs neuropathiques, est-ce qu'il y a une pathologie chronique dessous, parce que toutes les douleurs ne sont pas les mêmes. Vous coincez le doigt dans la porte... que vous preniez 10 gouttes de CBD ou un doliprane ou mettez l'eau sous le doigt sous l'eau froide, le doigt dans la porte, ça va céder la douleur. Donc c'est pas ça qui va permettre de trancher. Mais quand vous avez des douleurs chroniques sur des lombalgies chroniques, des pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, comme les pathologies démyélinisantes, comme des pathologies tumorales, on sait que ce qu'on appelle l'analgésie balancée. C'est-à-dire que plutôt que de mettre une grosse dose d'un seul médicament, on sait que répartir les doses plus petites sur toute la journée et mettre plusieurs médicaments qui jouent sur plusieurs cibles, c'est mieux et ça peut aider.
Bon, j'ai tellement de questions à vous poser et je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'on va faire un pas sur les pauses musicales prévues. Je m'en excuse. Je voudrais savoir si on est autorisé à voyager avec du CBD et si oui, est-ce qu'on a une quantité autorisée ?
Ça dépend la forme. C'est-à-dire que si vous venez à voyager avec de la fleur ou de la résine, il peut y avoir ce malentendu qui peut être fait avec le produit récréatif, en fait, avec du THC. Donc, j'ai envie de, quand même de dire oui, parce que dans beaucoup de pays européens, c'est un produit qui est autorisé en fleurs et en résine, comme que ce soit la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Vous voyez, et j'en passe, hein, vraiment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On est vraiment les seuls un peu irrésistibles gaulois à dire non, nous ne voulons pas. Donc, est-ce qu'on peut voyager oui, mais avec précaution, j'ai envie de dire. Avec un deuil pack, donc un paquet qui est scellé, avec, qui n'est pas déchiré, et avec un ticket de comme quoi il a été acheté dans le commerce. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Pensez-vous que le CBD, de par ses effets pharmacologiques et ses potentiels effets indésirables, devrait être sous le monopole pharmaceutique ?
Ben, en fait, c'est une substance qui n'a pas de statut aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas avoir le monopole de quoi que ce soit.
Donc là, tout est ouvert.
Ben aujourd'hui, sur le plan législatif, utilisation, machin, oui, tout est ouvert, puisque ça n'a pas de statut.
Quand tout est ouvert, ça ne part pas en cacahuète ? Je veux dire, il n'y a pas des abus ?
C'est là où, justement, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu la vague de CBD Shop qui s'était fait fermer, justement, parce que vu qu'il n'y a pas de texte de loi qui réellement autorise ou interdise, on était un peu sur des flous juridiques ou sur des décrets, plus que des réelles lois. Donc, par exemple, rien n'interdit ou n'autorise le CBD. Il n'y a pas de texte par rapport à ça. Donc...
Ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Ok. Il vous arrive d'avoir des gens qui rentrent dans votre commerce en vous disant, puisque vous vendez du CBD, vous vendez peut-être le reste ?
Ça nous arrive. Et on est assez direct avec ces personnes-là, où vraiment, nous, notre idée, c'est de montrer patte blanche. Et parce qu'on est transparent avec nos produits, on a une traçabilité qui est plus que sûre via différents labos. Et donc non, nous ne vendons pas des produits récréatifs. Sinon, ça engendrerait trop de problématiques. On n'est pas dans ce business-là, si je puis dire. Donc ça arrive, mais... On coupe court et on explique que non, qu'on est vraiment spécialisé dans le CBD, ce qui est le cas.
Souvent, les clients de ce type, c'est quelqu'un qui va venir chercher à manger, à fumer, comme s'il allait dans la rue. On explique très clairement que nous, ce n'est pas du tout ça qu'on...
Donc, on voit vraiment encore le petit problème, en fait, du marché noir, en fait, qui revient sur les commerces qui sont légaux. Donc vraiment trouver un cadre à ce produit-là, c'est important, en fait, justement pour effacer. Quand vous allez dans une boulangerie, vous savez que vous allez acheter du pain et des croissants, vous ne demandez pas s'ils vendent des chaussures. Donc là, c'est un peu pareil.
Oui, ou alors c'est qu'on est mal réveillé. question qui peut paraître naïve certainement, mais quand on ne connaît pas, c'est bien de poser toutes les questions. Est-ce qu'on peut planer avec le CBD ?
Alors l'effet planant va être assez difficile à vraiment déterminer. Le planant qu'on recherche, que les consommateurs de THC vont rechercher, ce n'est pas du tout ce type d'effet qu'on va avoir avec le CBD. Après, quelqu'un qui par exemple n'a jamais été exposé aux cannabinoïdes, que ce soit le CBD ou n'importe lequel autre,
peut l'interpréter
comme quelque chose de planant, parce que ça va être une grosse détente musculaire, ça va être vraiment
de la relaxation.
On a eu un retour d'une cliente qui nous avait pris une tisane, et qui nous a appelé le soir même en mode je me sens vraiment détendu, est-ce que c'est normal ? Ne vous en faites pas, tout va bien se passer, asseyez-vous dans votre canapé, dans 2 heures ça ira. Enfin, vous serez juste détendu.
Voilà.
Docteur, vous avez déjà testé ces produits à titre personnel ?
Non, je n'ai pas testé les produits à titre personnel. Non.
Non. Ça ne vous intéresse pas ?
Non, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que moi, je n'en ai pas l'utilité.
D'accord.
Mais on n'a pas de raison. Après, moi, j'ai des patientes, puisque vous avez parlé de la tisane, moi, j'ai des patients qui la fument, la tisane.
Qui la fument ?
Ouais, ah oui, ça, c'est plutôt embêtant, par exemple.
Ah,
c'est
oui.
Un truc qu'il faut prévenir, parce que ça, c'est très irritant pour la gorge.
Ah, oui.
Et on a une jeune dame qui a fait un œdème laryngé à cause de ça, parce qu'il y a dans la tisane, donc, la présentation comme de l'herbe, donc elle a... comme vous avez dit, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais donc,
parce que nous, c'est, il a consommé, la personne que vous dites, a consommé le chanvre décarboxylé qui n'était pas mélangé à un thé ou une infusion. Ouais. Donc c'était vraiment le produit pur et elle s'est dit pourquoi pas le consommer en lina, lancer ça.
Ah oui, c'est ça.
Ouais,
elle,
d'accord.
Elle a fumé, mais bon, comme il y a enfin, comme c'est pas le but, hein, donc elle a été irritée. Mais c'est intéressant. Je rebondis aussi sur un, parce qu'il faut faire aussi un peu de prévention dans ces émissions.
Tout à fait.
Par exemple, dans les produits phyto, là, il y a eu, si vous avez suivi l'actualité, il y a eu des miels vendus en stick, sachets individuels, de miel apaisant, relaxant et améliorant les performances sexuelles. Donc, il y a pas mal de patients qui ont acheté. On en a eu quelques-uns en Occitanie, mais c'était en France, hein, ça a été signalé par les réseaux de surveillance de la toxicologie, qui contenaient des médicaments dedans, donc de très mauvaise qualité, qui ont provoqué des médicaments de type pour faciliter l'érection chez l'homme et qui ont provoqué des accidents cardiaques. Donc, c'est intéressant de revenir sur la qualité de ces produits pour dire qu'aujourd'hui, ils sont de meilleure qualité, mais qu'il faut faire attention. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui achètent sur Internet ces produits-là et que les produits, c'est pas parce que ça vient d'Europe que c'est forcément de qualité et qu'il faut faire très attention à ce que les consommateurs achètent.
J'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que il y a des études qui ont été faites sur des médicaments qu'on retrouve comme le Doliprane, par exemple. Je donne ça. Et maintenant, on s'est rendu compte il y a pas longtemps qu'il y avait des problèmes de reins, que ça venait dégrader, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est des médicaments, apparemment, qui ont été contrôlés par la NSM pendant plusieurs années pour déterminer que le produit qui était vendu n'avait pas de risque sur le corps humain qui soit vraiment... qui vienne dégrader, en fait, l'organisme. Et on se rend compte des années après que, en fait, si. Et donc, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de c'est un produit nouveau, on ne sait pas trop, on ne sait pas sur trop quoi se baser. Mais des médicaments sur lesquels, normalement, on a fait des études, qu'on a mis en libre service dans toutes les pharmacies, causent de réels problèmes de santé.
Oui, c'est un peu simpliste.
C'est très simpliste.
C'est très simpliste comme vision, parce que là, vous prenez l'exemple du paracétamol, qui est un médicament qui est toxique.
Oui.
Et c'est écrit dans les notices, et vous savez que depuis... le début de l'année, là, les pharmaciens, ils peuvent plus, à l'inverse, par exemple, de pays comme les États-Unis, où on peut acheter des stocks avec des boîtes énormes de paracétamol, maintenant, vous n'avez plus accès au paracétamol, au guichet, il faut que ce soit le pharmacien, même si vous pouvez l'avoir sans ordonnance,
d'accord.
C'est le pharmacien qui vous le délivre, vous pouvez plus l'acheter en rayon. Voilà, donc il y a des précautions, parce que comme tous les médicaments, il y a toujours des effets indésirables, pas secondaires, indésirables. Parce qu'on dit souvent les effets ils sont secondaires, mais en fait ils sont indésirables parce que c'est pas l'effet. L'effet c'est le premier, il y a pas de secondaire. Comme toute substance, il faut faire attention. Mais tous les médicaments sont mésusés. De toute façon, il y a des patients qui mésusent les médicaments.
Justement, est-ce qu'on a des contre-indications du CBD pour des femmes enceintes par exemple ou pour des associations avec d'autres médicaments?
Ben normalement, sur les femmes enceintes, on devrait pas utiliser de substances. Après, c'est, vous savez, en médecine, c'est la balance bénéfice-risque.
Oui.
Donc là, par exemple, on s'est intéressé à la maternité, donc avec les gynécologues, les psychiatres et les addictologues. On a beaucoup de femmes enceintes qui fument du cannabis. Donc, il faut les prendre en charge. Et il y a des femmes enceintes qui n'arrêtent pas de fumer du cannabis, comme il y a des femmes enceintes qui fument du tabac ou qui boivent de l'alcool. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner, d'essayer de les faire arrêter. Des fois, ce n'est pas possible, ou des fois, il y en a qui reprennent après. Et en fait, on se rend compte que les avis divergent. Il y a des gens qui disent que... Il y a des pays qui disent que certaines... si on fume, par exemple, moins de 2 joints par jour, l'allaitement n'est pas contre-indiqué. En France, c'est totalement contre-indiqué. En France, on le contre-indique. Il y a des pays qui ne le font pas. Là, vous avez parlé des pays comme l'Espagne, le Portugal, qui sont sur la légalisation en avance sur nous pour le THC, ça pour le cannabis.
C'est pas une légalisation, c'est une dépénalisation.
Oui, pour dépénalisation.
Mais
oui.
Effectivement, il y a des cadres qui sont tout à fait différents.
Mais oui. ça a quand même pas réglé la problématique de la consommation de cannabis.
Oui.
Et en France, la pénalisation à outrance. Ça ne règle pas le problème non plus.
Mais justement, donc, qu'est-ce que ça changerait s'il y avait une légalisation du cannabis? Est-ce que ça influencerait votre commerce?
Est-ce que ça influencerait notre commerce? Oui.
Est-ce que ça influencerait notre commerce?
Oui.
C'est différent. C'est différent. On est sur, comme on l'a dit, c'est pas du THC qu'on vend. Nous, c'est du CBD. Donc, est-ce que ça influence? Est-ce qu'on serait associé à ces produits-là? Sûrement. Sûrement, on sera associé. Après, encore une fois, tout dépend du cadre juridique dans lequel il est mis en application. On ne va pas faire des plans sur quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'existera sûrement pas dans les prochaines années, même s'il y en a qui espèrent pour le prochain mandat avoir ramené certains votes grâce à une proposition de loi sur le cannabis. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Je leur dis quand même... Déjà, ne vous basez pas sur ça pour aller voter ou quoi que ce soit. Et donc, sur un cadre juridique pour notre commerce, on verra, on n'y est pas déjà. On aimerait déjà avoir un cadre qui soit bien fixé pour le CBD. Après, sur les créatifs, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment sur le côté. On reste concentré quand même sur le bien-être plus que le récréatif et sur nous, le thérapeutique et le médical en avant. En premier lieu, je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer, plus que sur le récréatif.
Docteur, moi j'aimerais avoir votre opinion, justement, sur la légalisation du cannabis.
Mon opinion?
Oui.
C'est une opinion partagée, parce qu'on est souvent sollicité par les élus, d'autres médecins qui s'interrogent sur ce qu'on en pense tout le temps. C'est assez compliqué, des fois, même avec des confrères médecins, de dire, pour l'instant, il est dans une consommation massive de substances. Donc, le but, c'est pas de faire arrêter d'un coup, c'est de diminuer. Ça, en France, on a du mal avec ce qu'on appelle la réduction des risques. C'est-à-dire, prendre quelqu'un en lui disant, si vous lui dites, tu vas arrêter de boire demain, c'est l'exposer à des risques de sevrage. Tu vas arrêter de fumer du cannabis demain, c'est l'exposer à des décompensations à partir du moment où, comme je vous disais tout à l'heure, cannabis est utilisé comme un médicament. Donc, on ne le fait pas, ça. Mais c'est difficile de l'expliquer. Sur la légalisation, ce qu'on voudrait, c'est une légalisation contrôlée. C'est-à-dire, pas une légalisation à outrance où demain, on ouvrirait Ce qu'on veut savoir, nous, c'est la qualité du cannabis. Chez les plus jeunes, en fait, les pathologies psychiatriques, elles surviennent parce que c'est un cannabis qui n'est pas un cannabis de bonne qualité qui se vend.
Tout à fait.
On en a du cannabis, parce qu'il y a des consommateurs qui achètent du cannabis, que ce soit à Toulouse ou dans les autres villes, qui nous l'amènent en disant « celui-là, ça ne va pas ». Donc, alors il y en a un qui est allé au commissariat la dernière fois, ce n'était pas le meilleur endroit, mais il est venu chez nous en nous disant « j'ai acheté un pain de résine et là, ça ne va pas parce que je ne trouve pas bon ». Donc, on sait que la titration... La quantité de THC, elle peut beaucoup varier. Donc nous, on aimerait quelque chose de contrôlé, une légalisation contrôlée, avec un suivi médical derrière et des moyens pour les jeunes aujourd'hui. Parce que là, on voit, c'est période d'élection, donc on voit sur Twitter, si vous tapez le hashtag cannabis, vous allez voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui veulent pas.
Oui, sans surprise.
Donc, il y a toujours un discours politique, mais nous, ce qu'on sait, c'est que ça serait bien qu'on ait quand même des moyens pour la santé, surtout pour les plus jeunes qui sont vraiment exposés tant que le cerveau est encore en maturation et qui sont vraiment les plus à risque.
Tout à fait. On n'ira jamais conseiller à quelqu'un qui a moins de 21 ans de consommer quelconque produit, que ce soit de l'alcool, de la cigarette et encore moins du cannabis récréatif.
Après, là, on a vu la légalisation, le modèle, c'est les États-Unis. On a vu la légalisation. Alors là, ça a été repris par certains de nos ministres qui ont dit « oui, mais ça finance des actes beaucoup plus graves, le cannabis ». Aux États-Unis, on a vu qu'il y a eu une explosion de la consommation récréative avec la légalisation et pendant un moment des intoxications chez les enfants parce que les gens en fait laissaient traîner à domicile. Donc, mais ça, si on l'explique pas et si c'est pas encadré, c'est dommage. Et après, il faut que la santé, elle est prête à répondre, mais il faut qu'il y ait vraiment un peu plus de moyens qu'on fasse comprendre que il y a besoin de plus de médecins, quoi.
Je pense qu'avec une légalisation du cannabis, ce qu'on aimerait surtout, c'est trouver un cadre et plus de réponses aux questions. Tout simplement qu'à partir du moment où ce serait légal, on pourrait se permettre plus facilement de faire des études, avoir un meilleur...
Oui, encadré, comme vous venez de le dire. Ouais, que ce soit encadré, tout simplement.
Parce qu'on a toujours ce petit tabou, en fait, avec le cannabis. Vous savez, il faut chuchoter comme ça. Oui. Dès qu'on parle de cannabis, non, c'est... Il faut arrêter de chuchoter les choses, il faut les dire. Et il faut justement expliquer aux gens que c'est comme n'importe quel autre produit. Vous n'allez pas laisser traîner votre bouteille d'alcool sur la table avec des enfants en bas âge, c'est pas possible, ni votre verre ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Vous êtes adulte, vous êtes conscient, donc ayez conscience des choses. Vous avez la liberté de consommer ce produit-là, mais faites-le en usage, voilà, en bon usage.
Je reviens au CBD, on peut devenir addict?
Il n'aura pas de vertu aussi addictogène que peut l'avoir l'alcool, par exemple, comme a dit le docteur Franquito.
J'aimerais bien avoir l'avis de monsieur Franquito avant de
non, commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépendance pas au CBD. Dépendance.
Non,
du tout.
Il n'y a pas de dépendance décrite au CBD.
Du tout.
Après, c'est ça, si vous voulez, c'est, on n'est pas que dépendant à un produit. Les gens qui consomment de l'alcool ou un médicament ou du sucre, parce que maintenant on parle de l'addiction au sucre.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi une addiction, il y a aussi un comportement dedans et, oui. Et l'effet que ça procure.
Exactement.
Donc il y a l'addiction au produit, mais il y a aussi toute la prise en charge comportementale de l'addiction qu'il faut gérer. Et l'exemple, c'est le tabac. C'est-à-dire, quand vous voyez des fois, vous êtes à l'intérieur, vous ne fumez pas, vous recevez un coup de téléphone, vous sortez, vous fumez, même si vous n'en avez pas envie. C'est des associations de comportement. Donc, il y a des gens, ils rentrent du travail, ils mangent un gâteau, il y a ceux qui rentrent et qui boivent de l'alcool, et nous, des fois, on leur dit, mais quel plaisir, ils disent, c'est ritualisé. Mais par contre, ça fait de la consommation. Donc, c'est sûr, c'est pas grave, ils disent, bon, c'est un whisky, mais c'est tous les jours un whisky, alors que c'est pas réfléchi, c'est-à-dire ça devient du comportement. Donc, ça c'est le rôle des médecins addictos, de prendre en charge ce genre de comportement. C'est pour ça que la réponse ne doit pas être je rentre, j'ai envie de boire du vin, j'ai du CBD, je prends du CBD.
C'est comportemental.
Les deux peuvent faire bon ménage? Il n'y a pas d'interaction entre le CBD et l'alcool?
Comme le docteur Franquito l'a dit au tout début, il n'y a pas de récepteur pour l'alcool.
D'accord.
Il y a un récepteur pour le CBD, mais pas pour l'alcool. Donc, s'il n'y a pas de réelle interférence.
Ça, avec le CBD, on ne va pas trouver des interférences comme ça a déjà été étudié. Il y a des interférences, par exemple, entre le THC et l'alcool. Les
tout
deux
à
sont
fait,
psychoactifs.
Là, oui.
Les deux, on dit que ça va amplifier les effets de l'un, de l'autre. Avec le CBD, vu que c'est pas psychoactif.
Il y a des travaux qui montrent qu'il y a des interactions quand même avec certains antidépresseurs chez les patients qui sont traités par antidépresseurs.
Oui. Antidépresseurs.
Oui, mais je ne suis pas certain. Alors peut-être que vous, maintenant qu'on s'est rencontrés, vous allez poser la question à tous vos clients.
Oui.
Mais je ne suis pas certain que tous les vendeurs de CBD posent la question. D'abord, ça ne les regarde pas. Premièrement,
déjà,
ils n'ont pas le droit. Mais sur, sur les traitements, certains traitements antidépresseurs, il ne faut pas associer le CBD avec.
Souvent, on ne vient pas poser la question parce qu'effectivement, ça ne nous regarde pas. Mais souvent, quand les gens rentrent dans notre magasin, ils ont cet élan de nous dire ce qu'ils prennent, comment ils consomment, pour nous expliquer ce qu'ils peuvent. Nous, directement, on vient à dire que nous ne sommes pas médecins, donc on va donc d'en parler directement à leur médecin avant d'acheter quoi que ce soit chez nous. Vraiment, on n'est pas dans l'hyperconsommation. On veut vraiment que les gens, quand ils viennent chez nous, ils sachent tout, qu'ils aient une vision globale de la chose, en fait. Qu'ils soient pas à l'aveuglette en disant « si, achetez du CBD parce que vous êtes rentré dans la boutique ». Non, non. On est vraiment dans cet accompagnement de consulter votre médecin, revenez vers nous.
Et avec oui, grand... ça, vous le dites,
ah,
sans problème.
Sûr, bien sûr, avec grand plaisir. Mais on préfère. Et on préfère, parce qu'encore une fois, on ne se substitue pas à un médecin.
C'est pour ça l'idée d'une réunion, d'un accompagnement, je pense
ça,
que ça a tout
ça
son sens.
Utopique. Ça serait idéal et utopique.
Pas, je ne sais pas si c'est utopique, mais en tout cas, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé.
Le CBD, quelque chose qu'assez naturel, on va vraiment conseiller les gens aussi commencer doucement.
Ah,
par
oui.
exemple, sur les huiles, déjà, on va toujours conseiller une huile 5% avant de passer à un dosage supérieur, déjà pour voir si est-ce qu'on est réceptif ou pas. Et sur les boîtes de 5%, il y a une posologie recommandée de 3 gouttes matin, midi et soir. Mais on n'hésite vraiment pas à dire. Par exemple, prenez qu'une goutte ou deux, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Vous savez très bien que vous pouvez passer un peu plus de gouttes après.
Mais en cas de surdosage, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a très peu de contre-indications. Il faudrait vraiment consommer beaucoup.
Et pour les animaux aussi? Imaginez, le chien attrape le flacon et prend le flacon. Qu'est-ce qu'il fait? Il plane pendant 3 jours?
Il va dormir éventuellement.
Pardon ?
Il va dormir, je pense.
Il va bien dormir.
Mais pas de risque pour sa santé.
Rassurez-vous, il va se réveiller.
Voilà, c'est
la... Il va se réveiller, tout va bien aller, il va marcher correctement. Il n'y a aucun problème. Non, pour l'instant, non, il n'y a aucun problème parce que ça c'est vrai que. En tant que personne, c'est horrible, mais j'ai fait mes propres expériences. Hein. Vous m'avez pas demandé au début, mais pourquoi je me suis lancé dans ce commerce. Et en plus, c'est important parce que j'ai été addict au cannabis récréatif pendant plus de 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai consommé du cannabis en ayant vraiment cette sensation de manque. Le CBD m'a totalement sevré. Il y a eu une part, bien entendu, comportementale de ma personne, mais je me suis sevré du cannabis récréatif. Grâce au CBD. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je dis que ça a été mon cas.
Personnel. Et vous êtes addict au CBD maintenant ?
Je ne suis pas addict au CBD. Au contraire, je consomme de moins en moins de CBD.
Sans avoir retouché au cannabis ?
Bien entendu. Ça fait 7 ans que je n'ai pas touché au cannabis. J'ai arrêté quand j'avais 20 ans. Et j'ai commencé très tôt.
Et comment vous avez découvert, vous, personnellement, le CBD ?
Comment j'ai découvert le CBD ? L'information, on s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger, c'est venu comme ça. On a vu que les Suisses étaient précurseurs, comme l'a dit Dr Franquito, aux États-Unis, ils ont un modèle de fabrication de cannabis qui est bien plus importante que la nôtre et où ils ont fait des recherches qui sont bien plus avancées que les nôtres. Et effectivement, on ne s'est pas référencé à la NSM, mais on s'est référencé à ce qui se passait à l'étranger. Et c'est dommage qu'on se référence à ce qui se passe à l'étranger, alors que derrière, on a quand même un système français qui est super bien développé, qui arrive à faire des études très poussées. Donc, pourquoi pas informer les gens.
J'aimerais un petit mot de chacun avant la conclusion, parce qu'on est déjà en fin d'émission, mais je voudrais quand même un petit mot. Alors, professeur, on va commencer par vous. Un petit mot sur... peut-être une question que vous auriez aimé qu'on pose et qu'on n'a pas posée.
Alors, oui, la question c'est je consomme une substance quelle qu'elle soit, quand est-ce que je dois consulter ? Dès qu'il y a un retentissement sur le fonctionnement personnel, dès que les gens sentent que ça dépasse, qu'il n'y a plus de plaisir, qu'on ne peut plus s'en passer, qu'on perd le contrôle, qu'on a des remarques, des fois on les prend à la rigolade, hein, on le voit chez les jeunes là maintenant qui sont plus attentifs, des jeunes qui disent c'est mes copains qui m'ont signalé que j'étais moins performant à l'école, moins performant au rugby, que je planais, c'est peut-être le cannabis, l'alcool, tout ça. Donc dès que on a la sensation de perdre le contrôle, dès qu'on a des troubles du sommeil, dès qu'on est perturbé par le fait de pas avoir la substance sous les yeux, il faut venir consulter un service d'addicto.
Oui, puis je pense en plus, enfin rapidement, mais ça ferait encore l'objet d'une autre émission, je pense que la Covid n'a rien arrangé là-dessus.
Ah, la Covid, ça a été un super révélateur, c'est-à-dire il y a eu la Covid, simplement il y avait ceux qui étaient déjà addicts, qui ont eu des difficultés pour se réapprovisionner en toute substance, puisque c'était fermé les frontières donc pour le cannabis, mais aussi pour l'alcool, eux ils ont décompensé. Il y a ceux qui se sont retrouvés isolés et qui... se sont dit, j'ai plus de vie sociale, je suis tout seul, et en fait, la substance me manque, parce qu'en sortant du boulot, j'allais boire un coup avec des copains, j'allais fumer, et finalement, ça les a aggravés. Et il y a ceux qui ont majoré leur consommation, parce que c'était la récompense d'être en confinement, et on a eu le développement des apéritifs à distance, là où on a vu fleurir, avec des accidents quand même, il y a eu des alcoolisations aiguës, il y a eu des gens qui ont consommé des substances pour la première fois, seuls chez eux, et qui ont eu des problèmes. Mais là, on est en train de le mesurer, là. Tout le monde a peur, en fait, on dit, oh là là, on enlève les masques, ça y est, tout le monde va repartir faire la fête dans la rue. On a peur de ça, mais en fait, on va avoir les conséquences du retour à la vie dite normale.
Normale. Les garçons, un mot pour conclure ?
Nous, on aimerait bien parler de la communication autour du CBD. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et ça, on l'a bien vu entre quand on avait notre site internet, tout simplement, pour faire nos ventes, et quand on a commencé à avoir la boutique physique, on n'avait pas du tout le même rapport avec les gens, tout simplement. On pouvait leur expliquer nos produits, on pouvait les conseiller, on pouvait les diriger, on avait leur retour quand ils revenaient. Et ça irait un petit peu avec comment on pourrait faire une légalisation autour du cannabis, c'est comment est-ce qu'il faudrait bien communiquer autour du cannabis pour donner un message qui serait plus vrai et qui permettrait autant de pas tomber dans le vice du cannabis récréatif. Parce que je pense que s'il y a une meilleure éducation, il y a peut-être plein de gens qui n'essaieraient même pas, tout simplement, connaissant un petit peu plus les nocifs, les dégâts pour la santé, autant sociale que humaine. Et communiquer le bon message par rapport au CBD, bien sûr.
J'aimerais aussi que vous nous communiquiez les coordonnées de votre boutique à Saint-Cyprien, le nom et l'adresse exacte. Alors, nous, pour si on veut vous retrouver physiquement justement là-bas.
Donc nous c'est CWBD, c'est la compagnie of Wellbeing and Development, qui est la compagnie du bien-être et du développement. Et nous sommes au 6 rue Réclusanne, 31300 Toulouse, à Saint-Cyprien. Voilà, vous pouvez nous retrouver.
Donc vous avez un site associé à la boutique ?
Bien sûr, on avait un site où on explique aussi pas mal de choses sur les vertus du CBD, donc n'hésite pas à consulter CWBD en 4 lettres, -france.com.
Et oui, je vais prendre effectivement le petit dépliant, merci. Une question, bon, je sais que vous avez ouvert récemment, mais est-ce qu'il est prévu dans votre commerce de faire des ateliers découvertes avec des explications justement indispensables à l'utilisation du produit ?
Alors, ce genre d'atelier, nous, on ferme la porte à rien du tout. De toute façon, si la demande vient à nous, avec grand plaisir qu'on pourra parler et débattre et faire avancer le débat sur ça. Avec grand plaisir.
Vraiment. On a des idées, on a des projets. C'est pour ça qu'on a dit development aussi dans notre entreprise.
C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qu'il faut arriver à communiquer. Donc le bon message, divulguer le bon message. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir rencontré le docteur Franquito, parce que ce sont des personnes qui sont importantes pour cet avancement qui est nouveau en France et ces produits-là qui sont.
Donc il reste un long chemin à faire.
Bien sûr, on est qu'au début.
En tout cas, je vous remercie tous les trois d'être venus dans cette émission et d'avoir animé ce débat. J'espère, chers auditeurs, que cette émission vous aura un petit peu éclairé sur le CBD. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission d'Ainsi va la vie de 19 à 20 heures sur espritoccitanie.fr. Merci à tous.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.